Bon ben bonjour à tous. Ma grand-mère m'appelle Bruno. Ça c'est que je ressemble de plus en plus à papa. Donc que je vieillis. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui ? Ah, j'ai oublié tes commandes, je te remercie. Oui, vous allez bien ce matin ? Bon, c'est super. Moi aussi ça va bien. Parce que je suis content d'être avec vous, ici. Et puis je suis content depuis vendredi soir parce que Lille a battu Lens. Je sais que mon frère Timothée regardera cette vidéo. Et comme il est confiné chez lui depuis vendredi soir, je lui ai dit « Tu peux sortir maintenant !» Mais bon, c'est difficile. Non, on va pas s'empêcher de se réjouir. Hein, ça fait un an et demi des fois qu'on est bridé dans nos émotions. Hein, même si ce sont des émotions terrestres, qu'il y a peut-être plus important dans la vie, on va pas s'empêcher. On va pas se laisser mourir, comme dirait l'autre. En tout cas, ça tombe bien ce matin parce que le message que j'avais à cœur de vous partager, il découle un petit peu de tout ce que nous vivons justement depuis un an et demi. Vous savez, ce tourbillon Covid-19, qui, qu'on le veuille ou non, de toute façon, nous aura impacté, qu'on soit chrétien ou pas, de toute façon, il nous aura impacté rien que dans nos habitudes, hein, qui changent, qui ont changé. J'en parlais cette semaine avec mes élèves. Je leur disais, vous souvenez, il y a un an et demi, on était juste avant le premier confinement, une semaine avant, on était à Paris pour un stage. Et on était dans le métro, et dès qu'on voyait une personne arriver avec un masque, c'était le début, on la regardait bizarrement. On se regardait en train de dire, elle est bizarre. Et je leur disais, si on devait y retourner aujourd'hui, au même endroit, dans le même métro, on regarderait bizarrement ceux qui n'auraient pas de masque. Comme quoi, vous voyez, en un an et demi, bah on peut être chamboulé, tout peut vite bouger dans nos têtes, en tout cas. Et vous savez, depuis un an et demi, dans cette période, donc dans ce tourbillon, beaucoup de voix se sont élevées. Beaucoup de voix dans le monde, il y a qu'à zapper dans chacune des chaînes de télé pour se rendre compte que ça parle. Hein. Ça peut parler autour de ce Covid-19, mais aussi beaucoup de voix parmi les chrétiens. Et il y a pas mal de discours qui sont revenus, peut-être à la mode, ou qui sont ressortis à la suite un petit peu de tout ce que nous vivons. Des discours que j'ai entendus et que je suis sûr que vous avez entendus, et il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. Vous me direz si vous l'avez entendu. Beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens disent en ce moment qu'avec tout ce que nous vivons, c'est sûr, c'est certain, ça annonce quelque chose, c'est la fin des temps. La fin des temps est proche. C'est imminent, c'est qu'une question peut-être pour certains même, vous diront, de jours, de semaines, de mois. Qui a entendu ce discours ces derniers temps même de la bouche de chrétiens? Oui, il y en a quelques-uns qui ont entendu, ça va, je suis pas seul. Ouf, vous me rassurez. Et donc, face à ce discours, il y a différentes réactions parmi les chrétiens. Vous allez avoir les chrétiens qui vont être heureux, excités, qui vont faire « Yes ! Jésus revient ! Alléluia !» Il y en a qui vont être apeurés aussi, qui vont dire « Quoi, Jésus revient ? Mais je sais même pas où j'en suis dans ma vie avec lui, c'est peut-être pas le bon moment, j'ai encore plein de choses à vivre avec lui aussi. » Vous allez avoir des chrétiens qui vont être intrigués, qui vont vous dire « Ah bon, Jésus revient ? Et quand, comment, où ? On le sait, la Bible dit des trucs à ce sujet. » Vous allez avoir ceux qui vont tracer leur route sans avis. Bon, peu importe, moi je trace ma route. Et puis vous allez avoir d'autres chrétiens, comme moi peut-être, en tout cas jusqu'à récemment, qui face à ce discours étaient un petit peu sceptiques, voire méfiants. Je vous explique pourquoi. Pour deux raisons. Parce que j'ai cette chance, je le mesure en tout cas, comme tel, d'être né presque dans une famille chrétienne. Papa et maman se sont convertis le jour de mes 1 an, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, j'ai toujours eu l'impression de grandir et vivre dans une église. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais. Et ce discours, Jésus revient, c'est imminent, bah, ça fait un peu plus de 20 ans que je l'entends régulièrement dans les églises. Il revient de temps en temps à la mode. Je me souviens, dès qu'un prophète venait, il disait « Nous vivons la fin des temps ». Ou alors, dès qu'un événement mondial se produisait, je me souviens quand il y a eu l'attentat des tours jumelles, on disait dans les églises, ce sont les signes que Jésus va revenir. Donc je me disais, ça fait 20 ans qu'on l'entend, donc j'étais un peu sceptique pour ça. Et surtout, ça fait pas que 20 ans qu'il existe ce discours. Et j'ai découvert ça récemment avec le petit groupe de Pierre-Élie et Camille. En fait, Paul, Jean, dans leurs écritures, donc dans la Bible, il y a 2000 ans, annonçaient déjà le retour imminent de Christ. Incroyable. Donc j'étais sceptique, méfiant, peut-être incrédule. Parce que je me disais, si on l'annonce depuis 2000 ans, pourquoi ce discours aurait plus de valeur qu'aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque? Mais j'étais surtout méfiant, et ça je le suis encore aujourd'hui, en voyant arriver ces derniers temps, ces derniers mois sur Internet, et relayés aussi par des chrétiens, des sites, excusez-moi du terme, un pseudo-chrétien, qui font leur fond de commerce sur ce discours-là. Jésus va revenir, ils prêchent même plus la croix. Hein. Mais ils font leur fonds de commerce, sous-entendu, si vous voulez être sauvés, rejoignez-nous. Et vous verrez, ça se passera bien. On va se réunir tous ensemble, et puis on va attendre tranquillement que Jésus revienne. Bon. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ce matin, je crois que Dieu veut nous alerter et nous dire, soyons méfiants. Face à ce tourbillon que peut représenter le Covid-19, et face à ce tourbillon de la vie, face à ce genre de discours, Dieu veut que nous nous rattachions dans ce genre de situation à des vérités vraies. J'aime bien cette expression, des vérités vraies. Et ce matin, j'en ai trois à vous donner. Des qui iront dans le sens de ce discours, je vous le cache pas, mais une autre surtout, la plus importante, qui ira aussi dans son sens, mais qui la nuancera, qui ferait que nous aurons la bonne réaction face à ce discours. Alors les deux premières, elles vont dans le sens de ce discours. J'étais, comme je vous le dis, peut-être un peu incrédule parce que, en effet, et c'est mathématique, c'est mon côté prof de maths qui ressort, chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de la fin. Donc oui, forcément, ce discours, il a certainement plus de valeur aujourd'hui qu'il en avait il y a 2000 ans. Surtout dans la Bible, il est dit, et c'est le deuxième point, que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, ou 1000 ans c'est comme un jour. Je ne sais plus. Mais bref, en utilisant cette conversion de temps, en effet, le retour de Jésus, il est peut-être pour dans quelques heures, voire demain, voire après-demain. Mais surtout, la plus belle vérité vraie que je pouvais vous donner ce matin et que Dieu veut nous donner ce matin, elle se trouve simplement là-dedans. Qu'il est beau ce livre, n'est-ce pas Dominique ? Il est beau ce livre. Parce que il a peut-être 2000 ans, mais il a des réponses pour les situations que nous vivons aujourd'hui. Amen. Et vous savez quoi, dans ce livre, dans cette Bible, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de personnages. Et il y a des personnages que j'aime bien, ce sont les disciples de Jésus. Vous savez pourquoi je les aime bien ? Parce qu'ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils sont comme nous. Pourtant, ils ont vécu il y a 2000 ans, mais ils ont les mêmes réactions, les mêmes sentiments, les mêmes questions que nous avons aujourd'hui. Et à un moment donné, dans les Écritures, justement, Jésus aborde ce thème de la fin des temps, de son retour avec eux. Alors Jésus, il dit même, un peu plus tard dans l'Apocalypse 22:7, « Écoute, je reviens bientôt ». Mais il le disait déjà aux disciples avant. Et on retrouve ce passage dans Luc 17, versets 22 à 36. C'est un passage que je vous invite à découvrir ce matin, redécouvrir peut-être ensemble, et qui va nous servir de fil rouge tout au long de la prédication. Pour aborder le thème, vous l'aurez compris, en attendant le retour de Jésus. On y va ? Alors je vous propose donc de commencer en lisant ce passage. J'ai oublié mes lunettes. Donc sur la vidéo, je vais avoir l'impression d'être comme ça, je vieillis. Mamie, tu as raison. Donc Luc 17, versets 22 à 36, on va le lire ensemble. Tout au long de ce passage, c'est Jésus qui parle. D'accord ? Jésus parle donc forcément aux disciples de la fin des temps, du jour où il reviendra. Et il utilise l'expression « les jours du Fils de l'homme ». Ces jours, on sous-entend donc le jour où il reviendra. Je vous propose donc de revoir, c'est comme sous la forme d'une prophétie. Il annonce finalement ce qui va se passer. On le lit et on y revient juste après. Jésus dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas ou bien voici, il est ici, n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi viendra le Fils de l'homme quand son jour sera là. » Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Et on termine par le verset 36 qui est un blanc. Beaucoup de choses à retenir de ce passage. Il est riche. Il est riche. Enfin, après, vous allez me dire, ça fait 3 mois que je suis dessus. Donc forcément, j'ai eu le temps de faire surgir beaucoup de choses. Mais je vous propose de revenir et de revoir ce passage qui se compose finalement, quand on regarde bien, de 2 parties. Et donc de le revoir en 2 parties qui feront un peu le plan de ce que je vais vous partager ce matin. Et la première partie, Jésus, à travers celle-ci, nous montre tout d'abord une chose et veut nous dire une chose. C'est que malgré les signes, peut-être même présents que nous vivons aujourd'hui, d'une possible fin des temps, nul ne sait quand Jésus reviendra. Et ça, c'est une chose déjà très très importante. En effet, Jésus dit que plus les temps passeront, plus des personnes, même parmi les chrétiens, annonceront encore et encore le retour imminent de Christ. Ça, il le dit. Mais il ne s'arrête pas là. Revenons un petit peu en arrière, au verset 22. Au verset 22, Jésus nous montre, sous-entend que tout d'abord, nous ne sommes personne, et peut-être je suis désolé si je donne cette sensation-là depuis le début, nous ne sommes personne pour juger ceux qui annoncent un retour imminent de Christ. Parce que Jésus montre bien ici qu'ils ne le font pas tous forcément d'un mauvais cœur ou dans un mauvais état d'esprit. En effet, ici, on voit clairement que peut-être des gens, même parmi les chrétiens, annoncent le retour de Christ parce que dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils en ont marre. Et ils en ont tellement marre, et il faut dire ce qui est, depuis 1 an et demi, on en a marre du Covid. Hein. Ils en ont tellement marre qu'ils ne désirent qu'une chose, c'est que Jésus revienne. Et ils confondent finalement dans ce cas-là un peu vitesse et précipitation. Ils confondent un petit peu désir et réalité. Et ils préfèrent dire « Jésus va revenir !» tellement qu'ils en ont envie au fond de leur cœur. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça, pour qui c'est le cas ce matin. La plus belle réponse que vous pouvez leur dire, c'est que vous savez, Jésus, il est peut-être pas là physiquement auprès de nous, il est peut-être pas encore revenu, mais il est là. Et il nous suffit de nous adresser à lui et nous avons cette assurance. C'est qu'il nous écoute, qu'il est là avec le Père et qu'il nous répondra. Amen. Amen. Au verset 23, Jésus dit en effet que ses discours, il les présente comme tels, en tout cas, ne sont qu'une rumeur. Il est bien dit ici, on vous dira, il est là-bas, il est ici, n'y allez pas, n'y courez pas. Sous-entendu, face à ce genre de discours, ce matin, ne nous affolons pas. Ne soyons pas affolés. Ça va un peu contrebalancer ce que je vous avais dit sur le site internet. N'allons pas nous réfugier dans ces sites internet. N'ayons pas peur. Et on le verra pourquoi après. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur, de toute façon, c'est que Jésus le dit bien au verset 24, ça arrivera tel un éclair, tellement vite que même les meilleurs prévisionnistes seront surpris. Donc, à quoi bon les écouter? Bref, si on devait faire un premier bilan, n'accordons pas finalement, peut-être, d'après ce que Jésus nous dit ici, plus d'importance que cela devrait en avoir à ce genre de discours. Pour autant, ce genre de discours, et moi, en tout cas, en préparant cette prédication, ce genre de sujet, le retour de Jésus, la fin des temps, peut peut-être être un sujet qui vous interpelle, qui vous intéresse. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais Jésus nous donne un conseil ici. Raccrochons-nous à 2 exemples. 2 exemples, puisque ça se passera de la même manière, et Jésus nous les donne, ces 2 exemples, c'est celui de Noé et celui de Lot. Ce sont des exemples qu'on a dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Peut-être que vous connaissez ces histoires. En tout cas, je vous propose de faire comme Jésus nous le dit et de revenir là-dessus, pour peut-être voir ce qu'elles peuvent nous apprendre. Noé, vous connaissez peut-être l'histoire de l'Arche de Noé. Ça vous rappelle peut-être des choses, on va y revenir. Et Lot, c'est celui dont sa femme s'est retournée en quittant Sodome. Et hop, statut de sel, Jésus avait dit, ne te retourne pas. On va y revenir et on revient sur ces histoires. J'ai ma petite anti-sèche ici à partir du verset 25. Ces 2 histoires sont très très intéressantes parce qu'elles ont des points communs. Et un des points communs qu'elles ont, c'est le contexte de l'époque. Au moment de Noé, au moment de Lot, c'est... 2 personnages vivaient dans un contexte fort difficile. Ils étaient un peu les derniers des Mohicans, si je peux me permettre l'expression. C'était les derniers chrétiens, vous imaginez. Donc des fois on dit que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est terrible, même par rapport à Dieu. Mais Dieu merci, ici on est plusieurs à être les derniers chrétiens, il y en a même ailleurs. Vous imaginez, là c'était vraiment les derniers, en tout cas ils sont présentés comme tels. Et le contexte autour d'eux était terrible, un peu similaire à ce que nous vivons aujourd'hui, je ne le cache pas, mais tout aussi terrible. On dit qu'on avait quand même un monde qui avait donc rejeté Dieu en totalité, Dieu et ses valeurs. un monde qui était centré sur lui, un monde qui était débauche, un monde qui était matérialiste, bref, une horreur. Et donc au milieu de tout ça, on a deux personnages, Noé et Lot, qui ont donc un point commun, c'est que eux, par contre, ils restent attachés à Dieu. Et ce matin, Jésus veut nous dire, peu importe que c'est la fin des temps qui est proche ou pas, que ce soit pour demain, après-demain, dans 10 ans, dans 100 ans, soyons des Noé, soyons des Lot dans ce monde qui nous entoure. Amen. Amen. Alors, ils ont ce point commun, Noé et Lot, donc ils sont attachés à Dieu. Et pourtant, ce sont des personnages totalement différents, du moins avec des sentiments différents, qui réagissent de façon différente par rapport à ce qui se passe autour d'eux. On a en effet un Noé qui va construire une arche et qui est quelqu'un de serein. Quand on regarde bien l'histoire de Noé, il est serein. Il y en a plein qui viennent le voir et qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais, Noé ?»« Bah, je construis une arche parce que Dieu m'a dit qu'il allait avoir... Voilà, je me prépare. » Et les autres rigolent. Il construit une arche. Il y a un Dieu qui lui a dit. Et Noé, malgré ça, pas de problème, lui. Il reste serein. Il reste dans sa lignée. Il dit, moi, Dieu m'a dit, je tiens. Et ça va durer plusieurs années, hein. Mais il va tenir bon. Et à côté de ça, vous avez Lot, qui est plutôt un personnage, lui, qui face à ce monde qui l'entoure est stressé, très stressé. Si on reprend son histoire, à un moment donné, quand les anges de Dieu viennent toquer à sa porte pour lui dire, écoute, Lot, avec ta famille, il va falloir que tu t'en ailles, parce que c'est la fin, on vient toquer, Lot ouvre la porte, oula, rentrez vite, un peu stressé. Il y a des gens qui ont vu que des anges étaient rentrés chez lui, ils sont venus toquer à la porte de Lot, ils ont dit, oui, bonjour, oui, on a vu rentrer des gens chez toi, présente-les-nous, ils ont l'air séduisants, peut-être pourrons-nous coucher avec lui, c'est ce qu'ils disent, hein, avec eux. Et Lot dit, non, il n'y a personne, il n'y a personne. Par contre, si vous voulez, j'ai 2 filles encore vierges à la maison, je peux vous les donner. Vous imaginez? Et pourtant, c'était une personne rattachée à Dieu. Mais comme quoi, des fois, face à cette annonce de la fin des temps, on peut, même en étant chrétien, des fois, perdre totalement les pédales. Incroyable. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Il était rattaché à Dieu, c'était le plus important, parce que Dieu l'a épargné. Amen. Donc, ce matin, nous avons 2 personnages qui ont un point commun. Ils sont rattachés à Dieu, mais ils ont des réactions totalement différentes. Un peu comme nous, ce matin. Regardez dans l'introduction ce que je vous ai dit tout à l'heure face à cette annonce de fin des temps proches. Il y en a qui vont être sereins, qui vont être excités, apeurés, intrigués. On a tous des réactions différentes. Mais ce qui compte, c'est une seule chose. Et c'est la bonne nouvelle de ces deux histoires. C'est parce qu'ils sont restés rattachés à Dieu, que malgré la fin du temps qui est arrivée, sensation en tout cas, de fin des temps pour ces deux-là, Dieu les a préservés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rattachés à lui. Amen. Donc soyons des Lot, soyons des Noé. Amen. On arrive à la deuxième partie de cette histoire de Jésus, qui raconte en tout cas, enfin, cette prophétie, je le présenterai comme telle. Dans cette deuxième partie, Jésus nous dit qu'en attendant cette fin des temps, et vous l'aurez donc compris, son retour, on ne sait pas quand de toute façon, ce qui compte, c'est que nous nous assurions que tout soit prêt si cela devait arriver. Et en effet, Jésus, pour cela, nous invite simplement, comme Noé et Lot, à nous calquer sur les valeurs du royaume de Dieu et non sur celles de ce monde. Un peu à travers cette question qui vous pose, qui me pose, qui nous pose ce matin, quelle réussite compte le plus à nos yeux ? Et pour ça, je vous propose de remonter au verset 31. C'est à partir du verset 31 que Jésus insiste là-dessus. Au verset 31, Jésus nous explique bien que tout ce que nous construisons, tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous possédons ici sur terre, et je pense que vous êtes d'accord pour le dire, il ne partira pas avec nous là-haut le jour où il reviendra. Alors je suis pas en train de vous dire, et Jésus ne dit pas là, qu'on n'a pas le droit de posséder, qu'on n'a pas le droit de construire, qu'on n'a pas le droit de bâtir. Je vois mon épouse faire dire, on est en train de faire construire une maison. En plus, c'est pour dans 2 ans, donc pour vous dire, si ça arrivait. Non, on n'est pas en train de vous dire ça, et pourtant c'est ce que les sites vous disent. Il y avait un des sites qui disait ça, hein, internet, que je vous disais, plus besoin de construire, même ne fondez plus de famille. Venez, on se réunit, on attend. C'est fini. Non. Jésus ne dit pas ça ici. Il dit simplement que ce qui doit compter, c'est pas notre soif de possession ponctuelle terrestre, mais ce qui doit compter à tout moment, c'est notre soif de destin éternel avec lui. Amen. Alors ce qui compte, c'est pas ce que nous avons dans notre porte-monnaie. Ce qui compte, c'est ce que nous avons dans notre cœur pour lui. Amen. En tout cas, c'est ce qu'il montre fort ici. Et Jésus finit même encore plus fort que ça. Il dit en effet que, c'est juste en dessous, qu'il faut que nous nous assurions que le jour où il reviendra soit un jour de joie pour notre âme et non un jour de regret éternel. Et la question, la deuxième qui nous pose ce matin, je pense à nous tous, c'est mettons-nous tout en œuvre pour cela. Peu importe ce soit aujourd'hui ou demain à la fin des temps, mais est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui? Et il finit pour cela quand même assez fort, parce que la fin de ce passage est quand même super, super forte. Hein. Ah, il utilise des images qui forcément nous interpellent. Je sais pas vous, mais c'est quand même costaud quand on y regarde un peu plus près. On trouve ça à partir du verset 33. À travers le verset 33, un peu, Jésus nous interpelle sur ce qui devrait être, vous savez, j'avais déjà parlé et partagé là-dessus, notre appel commun à tous. J'entendais tout à l'heure, dans ce qui a pu être partagé, on a l'impression des fois où des personnes ont l'impression de servir à rien, de pas savoir finalement à ce à quoi Dieu les appelle. Ce matin, c'est vraiment l'occasion, je pense, de nous rappeler que Dieu a déjà, à la base, un appel commun pour chacun d'entre nous. Cet appel commun, c'est premièrement faire une rencontre personnelle avec lui. Deuxièmement, quand on l'a rencontré, tout est beau, le suivre fidèlement tous les jours. Et troisièmement, parce qu'on le suit fidèlement tous les jours, en être ses témoins sur terre. Amen. Et Jésus ici, il ramène finalement les disciples et puis chacun d'entre nous à ces trois points-là, à cet appel commun. En effet, ici on voit tout d'abord que Jésus dit « Qui cherchera à conserver sa vie la perdra et qui la perdra la sauvera ». Et ça va ramener à deux questions ce matin. Je sais, c'est peut-être la partie un peu, vous allez dire « Ouh !» parce que c'est la partie qui fait peur. C'est sur cette partie-là que les sites pseudo-chrétiens appuient justement pour ramener des chrétiens à eux et puis un peu leur faire perdre les pédales. La première question ce matin, c'est si Jésus revenait demain, feriez-vous partie de ceux qui resteraient ici ou feriez-vous partie de ceux qui remonteraient avec lui? Oh punaise, Geoffrey. Ah là, c'est angoissant cette question. Ça peut paraître angoissant et pourtant, ça ne devrait pas. Je vous le dis clairement, mes amis, mes frères, mes sœurs, ce matin, ça ne devrait pas être angoissant. Pourquoi ça ne devrait pas être angoissant? Parce que nous avons notre destin entre nos mains. Et pourquoi nous avons notre destin entre les mains? Parce que Jésus a tout fait pour. Amen. C'est le moment de rappeler le message de la croix. Nous ne sommes pas parfaits, vous êtes d'accord? Je ne suis pas parfait, même si ma femme, quand elle me taquine de temps en temps, elle fait « Ah, ça y est ici, je ferai parfait ». Bon. Elle se cache là. Vous savez, c'est quand je fais des petits discours à la maison. Ça y est, ici, Geoffrey est parfait. Ma chérie, je ne suis pas parfait, même si ça me fait plaisir quand tu dis Geoffrey est parfait. Mon orgueil en prend un petit coup. Je ne suis pas parfait. Et Jésus, et si nous avons conscience de ça, sachez-le, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs, nous péchons. Mais Dieu, mais Jésus, en mourant sur la croix, a pris nos péchés, les a cloués, ils ont été cloués avec lui, et nous avons la possibilité, si nous le croyons et si nous le reconnaissons comme tel, d'être pardonné et de devenir enfant de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous fait ce cadeau incroyable, c'est qu'il nous dit, vous allez hériter et vous héritez de la vie éternelle. Donc nous sommes appelés à monter là-haut avec lui. Amen. En tout cas, si nous adoptons cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être, ce matin, ça fait quelque temps que tu viens ici, et que tu dis, c'est vrai, ce discours, je l'ai déjà entendu, on me l'a déjà dit, bon, je vais prendre le temps d'y mûrir, d'y réfléchir, on verra, on verra. Peut-être que la fin des temps, c'est pour bientôt, peut-être pas, mais ce matin, tu as aucune raison de jouer avec le temps. Dieu t'appelle ce matin à faire cette première étape importante de notre appel commun, une rencontre personnelle avec lui. Reconnais-le comme ton sauveur et seigneur, et alors tu seras considéré comme enfant de Dieu. Il n'y a pas de temps pour ça, ça peut se faire dès maintenant. Amen. Amen. Et ça me fait penser, ça, d'ailleurs, à une anecdote que j'ai quand j'étais au GBU, Groupe Biblique Universitaire. Vous l'aurez compris, mamie me l'a rappelé ce matin, ça commence à faire quelques années. C'était il y a 15 ans, et j'avais une personne comme ça, à un moment donné, on parlait un peu, parce qu'on était dans l'université, donc on avait beaucoup de personnes non chrétiennes autour de nous, beaucoup de jeunes, et puis il y a une personne qui abordait les gens et leur disait, mais tu sais, tu ne perds pas ton temps, tu n'as rien à perdre. Et puis il se mettait à leur place. Il dit, moi je me mets à ta place. Tu me dis que t'es athée. Ok. Si la fin des temps elle arrivait là maintenant, de ta position de athée, si Dieu n'existe pas, bon ben tant mieux. Tu peux croire ce que tu veux. Mais si Dieu existe, t'as tout perdu. Il dit, alors que regarde-moi, j'ai Jésus dans mon cœur. Si demain, la fin des temps devait arriver, que Dieu n'existe pas, je suis dans la même situation que toi au final. Par contre, si Dieu existe, j'ai tout gagné. Donc je suis gagnant dans tous les coups. Alors c'est peut-être un peu réducteur, mais je peux vous dire que ça a impacté les gens, les jeunes autour, ils réfléchissaient, ok, d'accord. On a tout à y gagner d'être avec Jésus ce matin. Amen. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, peut-être que tu as déjà fait, toi, cette rencontre avec Dieu, mais tu t'es un peu perdu. T'es un peu bifurqué, t'es parti. Et tu reviens. En tout cas, Dieu, ce matin, te dit, reviens à moi. C'est un appel, reviens à moi. Parce que ce discours-là que je suis, moi, Geoffrey, en train de te dire, il est encore valable pour toi. Ce cadeau que Dieu t'a fait à l'époque, il te dit pas, comme t'as bifurqué, je te le reprends, c'est plus pour toi. Non. Tu peux le retrouver. Jésus, il est là. Dieu, il est là. Il te le donne encore. À toi de le saisir. C'est un appel ce matin. Reviens à moi. Amen. Amen. Et la deuxième question. La dernière. Si Jésus revenait demain, est-ce que votre entourage, est-ce que mon entourage, est-ce que notre entourage aura eu l'occasion à un moment donné d'avoir entendu parler du Seigneur avant même que Jésus revienne? Et c'est là où Jésus finit fort, et ça va introduire un peu un message, prochain message, je crois que c'est en juin, j'avais vraiment à cœur de parler de l'évangélisation la prochaine fois, donc je vous fais une petite annonce en même temps, mais ça pourrait introduire un peu ça, et ce passage ici l'introduit. En effet, le jour où nous remonterons, parce que maintenant vous êtes convaincus, on va tous remonter quand Jésus revient, amen. Mais quand nous serons là-haut, notre cœur sera normalement dans la joie, parce que on sera avec le Père, amen. Mais j'aurais tellement, ce jour-là, tellement peur d'avoir quelques regrets quand même en regardant en bas. Pourquoi? Et Jésus ici insiste, si on regarde bien, il dit quand même que, et c'est fort ces images, qu'il y aura deux personnes, donc on peut imaginer un couple qui dormira dans le même lit. Ce jour-là, la femme montera, l'homme restera, ou l'inverse. On a même deux personnes qui travailleront ensemble, on peut imaginer des amis, des collègues de travail, l'une partira, montera, et l'autre restera. C'est fort comme image. Moi, ça m'a impacté quand j'ai relu ça. C'était tellement fort. Et je me suis dit, et on en parlait avec Manu, tu te souviens la dernière fois quand on avait mangé ensemble avec Nathalie, on se disait, on peut être, et nous devons être des témoins de Christ. En acte, tout d'abord, avant d'être en parole, mais aussi en parole. Alors, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. D'accord? Donc, on pourra pas convertir la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais je reste persuadé ce matin que nous avons tous un rôle à jouer. Vous savez, ces petites perches qui sont tendues au quotidien, saisissons-les. Pour que les gens qui nous entourent, notre entourage proche déjà dans un premier temps, notre famille, nos amis, nos collègues peut-être, puissent avoir au moins entendu parler de Dieu. Comme ça, quand nous serons là-haut, même si nous les voyons malheureusement en bas, nous n'aurons pas de regret à avoir dans notre cœur. Parce que nous aurons tout fait pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Amen. Amen. On arrive à la conclusion. Voilà, on arrive à la conclusion. Alors, attends, avant de mettre, je vais pour la conclusion. Je voulais quand je parlais de ce que je préparais comme ça avec mon frère Timothée, il m'a rappelé une vidéo. Oh, je l'avais oublié cette vidéo que nous avions découvert il y a plus que 15 ans là, quand on était au groupe de jeunes. Il y avait cette vidéo qui était venue, donc je pense qu'elle date de 2004 ou 2005, qui avait été faite et que c'était au début d'Internet, vous savez. Et j'aime bien cette vidéo, il me l'a rappelé parce qu'elle nous avait impacté à l'époque. Et surtout, je l'aime bien parce qu'elle retranscrit précisément les paroles de Jésus, qu'a eu Jésus aux disciples à ce moment-là. Cette vidéo, en fait, c'est une fiction. D'accord? La personne qui l'a créée, une fiction, elle s'est, à partir de ce passage de Luc 17, imaginé comment pouvait se passer le jour où Jésus reviendrait. Ok, je vous propose de la regarder, elle dure 1 minute 30 et on conclura là-dessus après. C'est costaud quand même, hein. C'est saisissant. Et vous savez, c'est tellement saisissant que je pense que là, ce que moi je viens de ressentir, et j'imagine vous ce que vous venez de ressentir, c'est la même réaction qu'ont eu les disciples après que Jésus leur ait fait ce discours. Je vais remonter en arrière. Mais vous avez vu ce qui se passe au verset 36. Il y a un blanc. C'est incroyable, hein? Pourquoi un blanc? Parce qu'à mon avis, après ce que Jésus vient leur a annoncé, ils ont dû rester tous sans voix. Et après ce que vous venons de voir là, dans cette vidéo, je pense que nous restons tous sans voix. Maintenant, ce qui est super important et ce que je veux que vous reteniez, et je pense que Jésus veut que nous retenions en partant d'ici, c'est pas rester sur ce blanc, pas rester sur cette sensation-là, comme si ça nous apeurait, comme si ça nous faisait peur ou qu'on se sentait mal. Il faut pas que nous oublions une chose, et c'est la plus importante. C'est que peu importe si Jésus doit revenir aujourd'hui, si c'est imminent ou si c'est demain ou dans quelques années, le plus important, c'est que nous attentions à la bonne nouvelle. C'est qu'il ne faut pas avoir peur, que nous avons le destin entre nos mains, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, que Jésus est notre sauveur, et que nous avons tous un rôle à jouer pour notre entourage. Amen. Amen. Voilà, c'est tout. Et si, je voulais terminer sur une note positive, ce verset tellement beau dans 1 Thessaloniciens 4:17, « Nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. » Une belle promesse pour la fin. Amen. Amen. Voilà. En attendant le retour de Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes perdus. Non, nous sommes sauvés. Amen. Amen. On va prier si vous voulez bien. Oui, vous pouvez vous lever si vous voulez. En tout cas, si vous vous sentez interpellé ce matin par ce message, pour votre propre vie, peu importe. Seigneur, je veux te prier ce matin et je veux te remercier parce que, Seigneur, ce que tu partageais il y a 2000 ans est encore valable aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, on ne sait pas ce qu'on vit. Peu importe, et de toute façon, on ne sait pas si c'est les temps de la fin. Mais Seigneur, tu nous laisses toujours avec, tu nous mets face à nos responsabilités, mais tu nous laisses toujours avec une bonne nouvelle, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons saisir cette bonne nouvelle pour notre vie. Père, ce matin, je veux te prier pour ceux, Seigneur, qui commencent à te connaître, qui ont fait une première approche de toi, que ce matin, Seigneur, ils puissent vraiment te rencontrer personnellement et, Seigneur, que tu puisses leur montrer à quel point tu es ce Dieu vivant qui a tellement de bonnes choses à nous donner, Père. Je te prie pour ces personnes-là, Seigneur. Je veux vraiment les remettre, Seigneur, pour qu'elles puissent, Seigneur, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les heures qui viennent, parce qu'il n'y a pas à attendre, Seigneur, tout à gagner, vraiment faire une rencontre avec toi, Jésus. Je veux vraiment, Seigneur, aussi te prier pour ceux qui peut-être se sont éloignés, ont bifurqué, Seigneur. Seigneur, tu les accueilles. Tu leur tends les bras à nouveau et tu leur dis, reviens à moi, Seigneur. Reviens à moi ce matin, parce que ce que je t'ai donné il y a quelque temps, je ne te l'ai pas repris. Il est toujours là, ce cadeau. C'est un peu comme un cadeau qui est au pied du sapin, qu'on laisse comme ça, après Noël, qu'on attend. Non. Même si tu l'ouvres Noël d'après, ou bien plus tard, il est toujours là et il est pour toi. Ouvre-le. Amen. Et Seigneur, je veux également te prier que nous puissions être, Père éternel, des témoins sur terre de ce que tu es. Dans ce monde, Seigneur, qui nous entoure, qui est un monde qui part en vrille. Seigneur, nous voulons être des témoins, nous voulons être des Lot, nous voulons être des Noé, nous voulons être des personnes qui sont rattachées à toi, des témoins, Seigneur, en acte et en parole. Père, que cette semaine, tu puisses nous permettre, Seigneur, de nous tendre des pierres, des perches, que nous puissions les saisir, Seigneur, pour être des témoins de Christ. Parce que, Seigneur, dans cette période de tourbillon, Seigneur, nous avons tellement de bonnes choses et tu as tellement de bonnes choses à donner à ce monde qu'il puisse, Seigneur, recevoir. En tout cas, Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui convainc que tu puisses encore déverser, Seigneur, des flots. Viens, Saint-Esprit, viens, Seigneur, dans nos vies, mais viens également, Seigneur, tel un vent violent dans ce monde qui nous entoure, Jésus. Je te loue, je t'honore, Père, je te remets chacun d'entre nous ce matin, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.